Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements informés, entre autres. France est prête à coopérer avec l'Indonésie dans le développement de l'énergie nucléaire. Musée maritime soumet une demande pour la collection du Musée maritime de Rotterdam. Ministre des Forêts et l'ambassadeur britannique discutent de la coopération pour soutenir la stratégie de puits nets du Folu. Japon renforce sa coopération avec l'Indonésie grâce à un programme d'échange. Technologie d'équilibrage aide l'Indonésie à atteindre son objectif de zéro émission en 2060. Et face à la crise du travail, le Japon attend l'aide indonésienne. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. L'ambassadeur de France en Indonésie au Timor oriental et dans l'ASEAN, Fabien Penon, a exprimé l'intérêt de son pays à collaborer avec l'Indonésie dans le développement de l'énergie nucléaire. S'adressant aux journalistes mercredi, Fabien a estimé que la France considérait cette opportunité de coopération comme faisant partie de la relation stratégique entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'énergie et de la technologie. Nous avons qu'ici en Indonésie, l'Indonésie travaille également sur la transition énergétique, qu'il s'agisse d'énergie renouvelable ou nucléaire. Nous étudions les opportunités de travailler avec le gouvernement si celui-ci est prêt à travailler avec nous sur ce sujet. Outre le nucléaire, Fabien a déclaré que la France continue également d'élargir sa coopération dans divers secteurs, notamment le commerce, l'investissement et la sécurité. Le gouvernement français a souligné que cette relation est basée sur la confiance et l'engagement à long terme pour faire face aux défis mondiaux communs liés aux relations diplomatiques entre l'Indonésie et la France qui existent depuis 75 ans. Fabien Penon espère que cette coopération pourra être une étape stratégique vers des relations bilatérales plus étroites ainsi que le renforcement du rôle des deux pays dans le développement de l'énergie durable. Le chef de l'unité de gestion du musée maritime de Jakarta, Miss Hari, a relevé que son parti soumettait actuellement une demande pour 300 bateaux traditionnels indonésiens, miniatures de la collection du musée maritime néerlandais de Rotterdam, sous forme numérique pour être exposés au musée maritime de Jakarta. Miss Hari, à Jakarta mercredi 11 décembre, a expliqué qu'actuellement, le musée maritime de Jakarta possède une collection de répliques de 70 bateaux miniatures traditionnels indonésiens. Il a estimé cependant qu'il existe environ 350 objets culturels liés aux traditions maritimes indonésiennes. C'est pourquoi le musée enrichit intensivement sa collection grâce à une collaboration avec d'autres musées, notamment le musée maritime de Rotterdam, dans le cadre d'un programme de coopération entre Jakarta et Rotterdam. En plus des demandes de collections numériques, le musée maritime de Jakarta demande également l'autorisation de réaliser une réplique de la collection de bateaux traditionnels indonésiens miniatures du musée maritime de Rotterdam. Selon Antara, l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Indonésie, Mark Gerritsen, a souligné que l'une des leçons du rapatriement des objets culturels indonésiens de ce pays et le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de la culture, notamment l'archéologie et les musées. L'ambassadeur des Pays-Bas a déclaré que cette collaboration a émergé grâce à de longues interactions entre des chercheurs des deux pays pour étudier et décider quels artefacts indonésiens aux Pays-Bas devraient être restitués. Le ministre indonésien des Forêts, Raja Juli Anthony, a tenu une réunion avec l'ambassadeur britannique en Indonésie, Dominic Shermy, pour discuter du suivi de la coopération entre les deux pays pour soutenir la stratégie FOLU Net 5 2030, citée par Antara à Jakarta mercredi 11 décembre, Raja Juli a souligné que l'Indonésie était très sérieuse quant à son engagement dans la lutte contre le changement climatique. Lors de la réunion au ministère des Forêts à Jakarta, le ministre Raja Juli Anthony a déclaré que la coopération entre l'Indonésie et le Royaume-Uni dans le secteur forestier avait été menée à travers l'application des lois forestières. La gouvernance est le commerce des produits du bois au Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et du Nord d'Irlande. APFLEGT, Programme de partenariat forestier multipartite MFP, Financement forestier durable ainsi que partenariat entre la foresterie sociale et le secteur privé. En dehors de cela, la collaboration est également exploré dans le cadre de divers forums internationaux, notamment des conférences organisées par l'ONU et le G20. Raja Anthony a également déclaré que le ministère des Forêts avait pour mandat de contribuer à hauteur de 60% à l'objectif national de réduction des émissions. Par conséquent, il a assuré que son parti continuerait à collaborer et à créer des synergies avec les partis concernés. À la même occasion, l'ambassadeur britannique en Indonésie, Dominic Shermy, a déclaré que l'Indonésie et le Royaume-Uni se soutenaient mutuellement pour atteindre de nombreux objectifs, notamment dans le secteur forestier. Il espère que la collaboration entre les deux pays pourra se poursuivre. Le gouvernement japonais organise à nouveau un programme de visite pour les représentants des dirigeants des internats islamiques indonésiens au Japon en 2024, afin de renforcer les relations bilatérales et d'enrichir la compréhension interculturelle. Ce programme est une forme concrète de l'engagement des deux pays à renforcer la coopération dans divers domaines sur la base des relations entre les deux peuples pays fort. Ceci a été transmis par l'ambassadeur adjoint du Japon en Indonésie, Katsuro Nagai, lors de l'événement de bienvenue du groupe des dirigeants des internats islamiques au Japon 2024 à Jakarta mercredi. 11 décembre 2024. L'ambassadeur Katsuro Nagai a dit: l'Indonésie a formé aujourd'hui un nouveau gouvernement et le gouvernement japonais a l'intention de renforcer la coopération avec l'Indonésie dans divers domaines, notamment politique, économique, social et culturel. Comme je voudrais le dire, nous sommes prêts à encourager les programmes d'échange entre les citoyens des deux pays afin que nos relations se rapprochent. L'ambassadeur adjoint Katsuro Nagai a ajouté: le programme organisé par le gouvernement japonais du 3 au 11 décembre 2024 vise à approfondir la compréhension mutuelle entre la communauté japonaise et la communauté musulmane d'Indonésie. Il a espéré que partager et appliquer les expériences acquises au Japon à la communauté scolaire, à la société et à l'environnement. Wärtsilä, une entreprise de technologie du secteur énergétique basée en Finlande, propose que la mise en œuvre d'une technologie de production d'électricité équilibrée est la clé pour que l'Indonésie puisse atteindre l'objectif de zéro émission nette en 2060. Le directeur de vente de Wärtsilä Energy Indonesia, Febron Siregar, dans une déclaration à Jakarta mercredi 11 décembre, a déclaré que l'atteinte de l'objectif de zéro émission nette de l'Indonésie en 2060 pourrait être réalisée avec la technologie existante, notamment en ajoutant des énergies renouvelables et une technologie d'équilibrage de l'électricité tout en supprimant progressivement les centrales électriques rigides. Dans les résultats précédents de modélisation du système électrique, Wärtsilä a constaté que la capacité d'énergie renouvelable en Indonésie devrait être 3 à 4 fois supérieure à l'objectif actuel de 2030. Febron a souligné que les centrales électriques au gaz en tant que technologie de transition peuvent jouer un rôle important dans le soutien à la croissance des énergies renouvelables. L'une des propositions de Wärtsilä est de permettre une expansion accélérée des énergies renouvelables et des technologies d'équilibrage pour garantir une électricité abordable. Selon Febron Siregar, directeur des ventes de Wärtsilä Energy Indonesia, l'Indonésie est dans une position unique pour accélérer rapidement la transition énergétique, car elle dispose de centrales électriques flexibles à moteur à combustible interne d'une capacité de 5 GW comme on le voit à Lombok, Bali et dans de nombreux autres endroits. Association japonaise pour les ressources humaines de la construction, JAC, le Japon, admet qu'il espère réellement l'aide des travailleurs des pays voisins, dont l'Indonésie, pour surmonter la crise du travail dans ce pays. Le chef du projet JAC, Naoya Shikano, a déclaré mercredi 12 novembre à Jakarta que les personnes âgées au Japon sont plus nombreuses que les personnes moins âgées, ce qui signifie qu'il y a très peu de jeunes du travail de construction à l'École polytechnique d'État de Jakarta. Naoya a déclaré que le Japon déployait intensément divers efforts pour surmonter la pénurie de main-d'œuvre dans son pays. JAC est une organisation juridique qui joue un rôle dans l'acceptation de travailleurs étrangers titulaires de visas de travailleurs spécialisés SSW. En plus de fournir des formations et des tests de compétences et de placement aux ressortissants étrangers, JAC fournit également des conseils et veille à ce que les entreprises qui accueillent des travailleurs étrangers maintiennent un environnement propice. L'événement de socialisation organisé par JAC a réuni des dizaines d'enseignements d'une soixantaine de lycées professionnels des régions de Tangerang, Jakarta et Depok. Bonjour, chers auditeurs, voilà les nouvelles d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'accueil diplomatique ayant pour le titre « La gastronomie et les souvenirs indonésiens sont intéressés par les visiteurs du bazar diplomatique d'hiver 2024 à Sarajevo ». L'ambassade d'Indonésie à Sarajevo a de nouveau participé au bazar diplomatique d'hiver DWB 2024 samedi 7 décembre à la salle Mirza Deli Basic à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine. Comme le rapport en communiqué de presse de l'ambassade d'Indonésie à Sarajevo, cette activité était une activité sociale organisée par le cercle diplomatique de Bosnie-Herzégovine. Cette année, le DWB a réuni environ 50 représentants étrangers ainsi que 18 vendeurs et sponsors privés et a accueilli 15 000 visiteurs. L'Indonésie participe au DWB depuis 2011 et 2024 sera la troisième participation de l'Indonésie depuis la remise en œuvre de DWB après la pandémie. La participation de l'Indonésie au DWB 2024 est un effort de gastrodiplomatie pour soutenir le programme Indonesia Space Up the World. Lors de cet événement, l'ambassade d'Indonésie à Sarajevo a fait la promotion de délices culinaires indonésiens tels que le saté de poulet, le bakso et le rendang, ainsi que de collations indonésiennes typiques telles que risoles, pastel, bakwan, onde-onde, omelette roulée, bolen à la banane et kue lumpur surga. En dehors de cela, il existe un certain nombre d'objets artisanaux indonésiens typiques tels que des foulards en batik, des chemisières en batik, des sacs en rotan, des éventails, des trousses à crayons, des porte-clés et autres. L'ambassade d'Indonésie à Sarajevo a déclaré que l'enthousiasme de la population de Bosnie-Herzégovine et de la communauté internationale pour goûter aux délices culinaires typiquement indonésiens était très élevé, de sorte que la nourriture et les collations fournies étaient épuisées avant la clôture de l'événement. Certains visiteurs connaissent également la cuisine typique indonésienne. L'ambassade d'Indonésie à Sarajevo espère que la courte expérience ressentie par les visiteurs pourra encourager davantage l'intérêt et la curiosité à visiter l'Indonésie. Chers auditeurs, c'était l'accueil diplomatique pour ce soir. Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 12 décembre 1992, le tremblement de terre et tsunami sur l'île de Flores. Un tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 au large de Flores, Nusa Tenggara Oriental, s'est produit le 12 décembre 1992 à 13h29 heure locale. Ce tremblement de terre a provoqué un tsunami de 36 mètres de haut qui a détruit des maisons sur la côte de Flores. Au moins 2100 personnes sont mortes, 500 personnes sont portées disparues, 447 personnes ont été blessées et 5000 personnes déplacées. Les zones les plus touchées étaient la résidence de Sika, la résidence de Ngada, la résidence d'Ende et la résidence de Flores Oriental. Passons maintenant à l'événement sur la commémoration de la Journée mondiale de l'assurance maladie. La Journée mondiale de l'assurance maladie est célébrée chaque 12 décembre. Cette commémoration a été lancée par l'Organisation mondiale de la santé et approuvée par l'ONU depuis décembre 2012. La commémoration de la Journée mondiale de l'assurance maladie vise à promouvoir des services de santé abordables et de qualité pour tous dans le monde. La Journée mondiale de l'assurance maladie est un appel lancé à tous les pays pour qu'ils fournissent des services de santé équitables et accessibles à tous leurs citoyens. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 12 décembre, Journée internationale de la neutralité. La journée internationale de la neutralité est célébrée chaque 12 décembre pour souligner l'importance des relations mutuelles entre les pays. Un pays neutre signifie ne pas prendre parti en temps de conflit ou de guerre. La commémoration de cette journée a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en février 2017. L'ONU sensibilise à la neutralité pour renforcer la sécurité et la paix dans les zones qui en ont besoin. Les fonctions incluses dans la neutralité comprennent les activités de prévention des conflits, de négociation, de médiation, de consultation et les activités de développement. Pendant ce temps, le Turkménistan est reconnu par l'ONU comme pays neutre en permanence depuis le 12 décembre 1995. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Berbunga-bunga saat bertemu dengan diri, entah mengapa wajahmu terbayang selalu dalam benakku. Hanya dirimu, hanyalah kamu. Kau buat hidupku menjadi ceria dan penuh makna. Kaulah semangatku di kala resah melanda. Kasih pilihlah aku menjadi pendamping hidupmu untuk selamanya, untuk selamanya, karena ku akan berikan yang terbaik untukmu seumur hidupku, seumur hidupku. Yeah. Aku ingin rasa akan selalu abadi walau badai datang mendatang, kita akan selalu bersama.
Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Ces auditeurs produisent souvent aussi donc mon Indonésie, dont le titre est « Le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères, Arief Ravas Ugroseno, a déclaré qu'il est important d'utiliser le cadre juridique international comme instrument d'orientation pour faire face aux défis du changement climatique. » Dans un communiqué de compte officiel X @kemlu-ri vendredi 6 décembre 2024, Havas a mentionné plusieurs cadres juridiques internationaux comme instrument directeur, notamment la déclaration de Rio de 1992, la CNUDM de 1982 et l'accord de Paris de 2015. Havas a fourni la déclaration orale de l'Indonésie pour le processus d'avis consultatif AO concernant les obligations de l'État en matière de changement climatique devant la Cour internationale de justice à La Haye jeudi la semaine dernière. Havas a déclaré que pour relever les défis du changement climatique, une coopération mondiale avec toutes les parties est nécessaire, notamment en mobilisant l'accès au financement et en collaborant pour l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. Il a expliqué qu'en tant que pays archipel, l'Indonésie est vulnérable aux impacts du changement climatique. Le changement climatique aura un impact sur l'environnement et la création d'un environnement sain fait partie des droits de l'homme. Il a ajouté que la création d'un environnement sain a également été incluse dans les instruments juridiques nationaux indonésiens. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Arief Ravas, a également souligné que la haut de la Cour internationale concernant le changement climatique est très important pour guider la gouvernance climatique internationale. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Arief Ravas, dans son avis consultatif indonésien sur le changement climatique, a souligné que le gouvernement indonésien est engagé et jouera son rôle stratégique dans le développement des normes juridiques internationales, en particulier celles liées au changement climatique. En septembre 2021, Vanuatu avait annoncé son intention de demander un avis consultatif AO à la Cour internationale de justice concernant le changement climatique. L'initiative est nécessaire en raison de la vulnérabilité de Vanuatu et d'autres petits États insulaires en développement au changement climatique et de la nécessité d'une action accrue pour faire face à la crise climatique mondiale. Vanuatu a ensuite fait pression sur d'autres pays pour qu'ils soutiennent l'initiative et a formé un groupe restreint d'États membres de l'ONU pour faire avancer l'initiative à l'Assemblée générale. La discussion au sein du groupe restreint a abouti à l'élaboration de la résolution A/RES/77/276 qui a finalement été adoptée par l'Assemblée générale le 29 mars 2023 où la résolution a été soutenue par 132 pays. Cette demande a ensuite été soumise au tribunal par le secrétaire général de l'ONU dans une lettre datée du 12 avril 2023. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Sejati tak ku temukan. darimu aku bisa merasakan kesungguhan hati, cinta yang sejati karenamu.
Dikirim Tuhan untuk melengkapiku, untuk jaga hatiku
karenamu. Hasrat terindah untuk cintaku, takkan cemas ku percaya kamu, karena kau jaga tulus cintamu. Ternyata kamu yang ku tunggu.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Changez de tard, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Ses retards, le riz est l'aliment de base du peuple indonésien. Il n'est pas surprenant que vous puissiez trouver différentes variantes de menus à base de riz dans diverses régions d'Indonésie. Il y a du riz liwet cuit avec des épices. Le riz jaune de Java et de Bali se distingue pour sa couleur jaune provenant de curcuma. Et à Kalimantan du Nord, il y a nasi subut. Différent des autres menus à base de riz, le nasi sobut a une couleur violette vive obtenue grâce à l'utilisation de patates douces. Le nasi sobut est fabriqué à partir de riz cuit avec de la patate douce violette et du maïs. Le goût sucré de la patate douce violette et du maïs se combine au goût savoureux du riz. Nasi subut reflète la sagesse locale des habitants de la résidence de Tanah Tidung dans le Kalimantan du Nord qui utilise des ingrédients tels que les patates douces violettes et le maïs sucré qui y sont abondants. Cette variante de riz est souvent servie lors d'événements traditionnels ou certaines célébrations. Ces ritocs, le nasi soubout est généralement servi avec du saté de poisson pastenag. Avant d'être transformé en saté, la viande de riz pastenag est d'abord trempée dans du jus de citron vert pour se débarrasser de l'odeur de poisson. Après cela, le poisson est nettoyé, assaisonné de fines épices, puis grillé jusqu'à ce qu'il soit cuit. Avec le riz soubout, le saté de poisson pastenag est également servi avec une sauce à base de tomates, d'échalotes, de sucre et de sel. La combinaison de riz soubout sucré et salé et de saté de poisson pastenag rendra tout le monde accro. Chers auditeurs, c'était le magazine Culture pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!
Ooh. akan lagi dia.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter Tunnel pour les animaux à PHIKN. Dans le développement de la capitale nationale IKN, l'Indonésie montre son engagement envers les principes de développement durable. Une preuve concrète est la construction d'un tunnel faunique, une infrastructure innovante qui vise à protéger la biodiversité dans cette zone. La route APS de la capitale IKN dispose d'un tunnel de passage pour la faune. Le tunnel est précisément situé sur la route APS IKN section 3B, segment KKT Kaliangau, Simpang Tempatau, sur la base des données du ministère des Travaux Publics. Ce croisement d'animaux est réalisé avec la matière première, tôle d'acier ondulé ou plaque d'acier ondulé. Il y a 4 points de tunnel pour animaux le long de la route APS IKN pour le mouvement des animaux sauvages tels que les hurons au miel. Le tunnel est construit avec une longueur de 80,77 mètres, une largeur de 25,12 mètres et une hauteur de 10,74 mètres. Amélioré la police article compass.id, les tunnels sont également plantés des plantes vertes dans le but de rendre l'infrastructure similaire à l'habitat naturel des animaux sauvages. La vice-ministre des Travaux Publics, Madame Diana Kusumastuti, a inspecté le projet dimanche. Elle a déclaré que la construction de la route APS IKN accorde toujours une attention particulière à l'environnement et assure la survie de la faune dans le Kalimantan Oriental. À IKN Nusantara, le tunnel pour les animaux sont un élément important parce que la zone fait partie de l'écosystème forestier de Kalimantan qui est riche en flore et faune endémique, comme les orang-outans, les singes nasiques et diverses espèces d'oiseaux. Sans ce tunnel, la présence de routes et d'autres infrastructures pourrait couper les voies naturelles de migration des animaux, perturber les écosystèmes et augmenter le risque de conflit entre l'homme et la faune. Chers amis, c'était la rubrique l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Bisa, bisa ambil nikmatnya karena
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncheon, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de magazine musical avec Maudry. Et cette fois, je vais vous présenter une chanson de Nafa Urbah. Chers auditeurs, Nafa Urbah est désormais mieux connue en tant qu'actrice. Mais Nafa est entrée pour la première fois dans le monde du chant lorsqu'elle est entrée dans l'industrie du divertissement tindonésienne. Bagai Lin Kecil est le titre de l'album et premier single sorti en 1995. Lors qu'elle chantait cette chanson, Nafa Urbah n'avait qu'une quinzaine d'années. L'émergence de Nafa Urbah sur la scène musicale slow rock semble être la prochaine génération de l'artiste légendaire Nick Ardila. Le moment était venu peu après la mort du rocker originaire de Bandung, même Dedi Dores, l'homme qui écrit souvent des chansons pour Nick, a également écrit des chansons pour lui. Bagai Lin Kecil est un genre de slow rock créé par Dedi Dores qui raconte l'histoire de la solitude d'une femme qui attend le véritable amour. Bonjour, chers auditeurs, voici Nafa Urbah va chanter une chanson intitulée Bagai Lin Kecil. Bonne écoute.
Aku ingin merasakan hangatnya
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.